Lors de notre dernier entretien, vous vous rappelez peut-être que nous avons abordé l'étude de la première béatitude, celle des pauvres, comme on l'appelle. On a appris, entre autres, qu'il s'agit d'une béatitude fondamentale par rapport aux autres, qu'elle suppose le pardon, l'humilité, la dépendance. Tous des thèmes qui, au fond, sont pas mal exigeants. Mais à cela, vous avez rappelé que la béatitude révèle aussi ce que vous appelez les cinq grandes qualités de Dieu. Et on en a vu quatre, je pense. La bienveillance, l'amitié, la tendresse, la fidélité. Mais si vous voulez, on pourrait quand même les rappeler aux auditeurs et puis poursuivre là-dessus.
Oui, certainement. Alors, si on peut vivre les béatitudes, c'est justement à cause de ces grandes qualités de Dieu. Au fond, c'est à cause de Dieu tel qu'il est. Et ces qualités nous font voir que les béatitudes sont possibles et qu'il peut nous les faire vivre. La première, c'est sa toute-puissance, sa bienveillance toute-puissante, c'est-à-dire que Dieu peut vraiment tout, il est sans limite. Et il est sans limite pour nous, donc c'est jamais dangereux de rencontrer Dieu, autrement dit, il est toujours de notre côté, il est toujours un parti pris pour nous autres, et on pourrait dire, il est pogné par nous autres, dans ce sens qu'il nous aime, il ne peut pas faire autrement, alors il est toujours bienveillant envers nous. Sa deuxième grande qualité, c'est l'amitié, c'est qu'il veut traiter avec nous d'égal à égal. C'est un mystère insondable, mais Dieu veut qu'on se tienne debout devant lui et qu'on pose des contrats et qu'on y réponde et qu'on soit libre avec lui. Et il veut nos consentements, mais il ne nous force pas. Et au contraire, il veut susciter notre liberté, il veut la créer, il veut il veut que nous soyons des hommes tels qu'il l'a pensé.
Au fond, c'est un principe de réciprocité.
C'est un principe de réciprocité, absolument. La troisième grande qualité de Dieu, c'est sa fidélité. Ce qu'on appelle la émette, c'est qu'alors même que nous sommes totalement infidèles, Dieu ne change pas dans son amour. Il reste toujours fidèle à nous autres, toujours fidèle à vouloir nous construire et à nous réussir. Et sa toute-puissance et son amour infini est là. À chaque instant qu'il fait battre notre cœur, c'est toujours un acte d'amour permanent. La quatrième grande qualité de Dieu, c'est sa tendresse, c'est-à-dire sa miséricorde. C'est celle qui le révèle le plus au fond. C'est les qualités d'une mère et d'un père, la qualité d'être attaché à son enfant, quoi qu'il fasse. Et ainsi, les enfants sont pour les parents toujours leurs enfants. Et on sait qu'une mère ne peut pas comprendre que son garçon ait tué quelqu'un. Elle va dire « c'est pas de sa faute, il n'était pas lui-même ». Autrement dit, elle est incapable de le juger. Parce que l'amour, à ce moment-là, rend incapable de rejeter la personne, de l'assujettir à une loi. Elle reste toujours bienveillante. Et c'est la tendresse de Dieu, son amour qui est miséricordieux. Nous y reviendrons là-dessus, évidemment, puisqu'il y a une béatitude spéciale. Et la cinquième qu'on n'avait justement pas traitée, c'est la sainteté. Évidemment, c'est la qualité qu'on connaît le moins, puisque actuellement, nous ne sommes pas organisés pour connaître Dieu tel qu'il est. La Bible dit même que le voir, c'est mourir. Alors, mais un jour, nous la verrons. Cependant, nous pouvons voir des actes merveilleux de Dieu qui se produisent en nous et dans le monde. On peut penser aux grands saints, on peut penser aux saints actuels aussi, qui sont peut-être pas encore canonisés, Mère Teresa, Jean Vanier et le reste, qui sont des moments de gloire de l'Église et de la manifestation divine. Mais nous en avons aussi en nous-mêmes, et nous en faisons aussi, et souvent on pense toujours aux géants, à ceux qui sont canonisés, mais il faut pas oublier nous, et surtout toutes les personnes sur la Terre peuvent démontrer ou manifester un peu de gloire divine. C'est la pointe du iceberg, mais elle est là quand même.
D'accord. Maintenant, on a énuméré les cinq grandes qualités et vous avez dit, je pense, que les cinq qualités de Dieu, elles correspondent à cinq grandes visions du monde. Ce sont les visions que Dieu a du monde.
Oui, et que nous devons avoir et pratiquer à avoir. Et ces cinq qualités de Dieu et ces grandes vision du monde, à partir du regard de Dieu, sont très importantes puisqu'elles permettent de comprendre mieux le fonctionnement des béatitudes. Alors, c'est pour ça que je parle de ça au niveau des béatitudes. C'est le rapport que ça a avec les béatitudes. Alors, ces cinq visions du monde sont les suivantes. La première, alors, n'oublions pas qu'elles sont corrélatives. Il faut les avoir toutes ensemble. Je vais expliquer comment tout à l'heure. Alors, la première vision du monde, c'est que Dieu, le monde est en train d'être créé par Dieu. Évidemment, un jour, Dieu, on dit, a créé le monde, mais c'est pas fini. Dieu continue à créer le monde, à le soutenir dans l'existence et à parfaire, à travailler, il lui a donné la capacité de son évolution Et il est toujours là, en train d'agir dans le monde. Alors, ça, on voit ça chez des théologiens comme Saint Thomas d'Aquin, et le reste, la cause divine qui est toujours à l'œuvre dans le monde. Et c'est évident que mes pieds sont sur le plancher. S'il n'y avait pas de plancher, je tombe dans la cave. S'il n'y avait pas de cave, je tombe dans rien. Mais s'il y a un plancher et s'il y a une cave, c'est parce que Dieu est là. Alors, Dieu est exactement où sont mes pieds, c'est-à-dire que c'est lui qui fait exister le plancher, c'est lui qui fait exister mes pieds, c'est lui qui fait battre mon cœur. Dieu est toujours avec nous, il est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas présents à lui. Mais il faut voir que ce Dieu est à une créativité infinie. Autrement dit, c'est un patenteux, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en train de créer du nouveau. Évidemment, au Moyen Âge, on avait défini la création, faire quelque chose de rien. Mais en hébreu, beraka, faire quelque chose, c'est faire du neuf. Alors Dieu est continuellement en train de faire du neuf avec le monde, et il ne laisse pas aller le monde, et c'est lui qui a parti le monde, puis s'il a parti le monde, c'est parce qu'il est capable de l'achever puis de le réussir. Alors c'est la première vision du monde qu'il faut avoir, il est dans les mains de Dieu, et Dieu est continuellement en train de le créer pour arriver à son terme.
Alors, s'il donne cette vision du monde-là, comme vous l'expliquez, c'est donc qu'il consent, qu'il accepte, qu'il veut même que le monde change.
Ça va venir avec la deuxième vision, puis la quatrième, en passant par la troisième. Alors, procédons un peu avec ordre. La deuxième vision du monde, c'est la vision du péché. C'est que le monde, en fait, si vous écoutez une nouvelle à 6 heures, ça vous prend une aspirine. À 10 heures, ça en prend deux. Parce qu'au monde, au fond, les journalistes font leur travail et ils font un travail prophétique. Ils nous montrent le mal qu'il y a dans le monde et ses causes. Et ça, c'est le premier ouvrage du prophète. Alors, les journalistes préparent la bonne nouvelle. Seulement que ça peut être déprimant.
Alors, ça peut être en effet
ça peut être très déprimant. Alors, mais quand même, ils font leur travail. Et s'il n'y avait pas les journalistes pour nous dire le mal dans le monde, où est-ce qu'on serait rendu? Ce serait terrible. Alors, ils font leur travail et je les félicite. Et ils font un travail de l'Esprit-Saint en faisant ça. Ils travaillent à l'Évangile. Maintenant, ce monde-là qui est cassé, comme disait Gabriel Marcel, c'est comme un monde brisé, qui est foutu, parce que les hommes sont fous raides, ils se tuent, ils se font la guerre, ils s'oppriment, ils s'appauvrissent.
Et qui n'a pas de sens,
souvent. Qui n'a pas de sens, qui est absolu, et ce sont des arguments pour quasiment d'incroyance, pour arriver à l'incroyance que tout ça. Mais cette vision du monde, il faut l'avoir, parce qu'elle est réelle. C'est vrai que le monde va mal aussi. Bon. Il y a la troisième vision du monde. La troisième vision du monde, c'est que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a racheté le monde, il l'a sauvé. Jésus est mort et ressuscité. Le monde est sauvé en Jésus-Christ.
Alors ça, c'est le pendant positif de l'aspect.
C'est non seulement le pendant, c'est la réussite du monde dans le plan de Dieu, en Jésus son Fils. C'est plus qu'un pendant, c'est un aboutissement du dessein. En son Fils, le monde est sauvé. Et chaque personne est déjà réussie dans le Christ, et il est autant au plan personnel qu'au plan collectif. Et tout le monde, en fait, est dans ce plan qu'est Jésus, en ce plan réussi qu'est Jésus. Ça, on appelle ça la justification. Ça se trouve dans Romains 1, 2, 3, puis 10, 11, 12, dans Saint Paul.
Au sujet des cinq visions du monde, on passe, je crois, maintenant à la quatrième.
Oui, il y a une quatrième vision du monde et je l'introduirai de la façon suivante, c'est qu'elle est complètement importante, cette vision du monde. Un jour, une femme à mes cours avait dit « Monsieur Truchon, j'ai une question à vous poser, ça fait 20 ans que je me la pose. Alors, j'avais dit vraiment oui, ça devrait être important de la poser.
Oui, c'était le temps.
Et cette personne-là me disait, le Christ a sauvé le monde, mais si on regarde dehors, on ne voit pas tellement que le monde est sauvé. On trouve qu'il n'y a rien de changé. Alors, j'ai dit, madame, c'est une belle question. J'ai dit, c'est très belle question. J'ai dit, ça introduit très bien une autre façon de voir le monde, qui est la quatrième vision du monde, qui est la sanctification. C'est que le monde, évidemment, est sauvé en Jésus-Christ, mais ce salut-là nous parvient dans notre histoire personnelle et collective, au niveau des siècles, par des signes de Dieu, des actions de Dieu qui nous sont signifiées en parole et en actes, qu'on appelle habituellement les sacrements. Mais n'oublions pas la prière, parce que l'Esprit-Saint autant agit dans nos prières que par les sacrements officiels. Mais il reste quand même que c'est pour nous conduire finalement au sacrement officiel. On en reparlera peut-être un peu plus dans la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice, qui sera la béatitude de l'Eucharistie. C'est évident que l'Eucharistie est la plénitude des sacrements et du sacrement de Jésus, puisque Jésus lui-même est présent en personne. Alors cette quatrième vision du monde, c'est qu'en fait, nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais si vous me regardez, vous voyez bien que je ne suis pas tellement sauvé tant que ça. Alors, il y a encore de l'ouvrage à faire. Alors, donc, nous sommes dans un processus de salut, de sanctification, même si dans le Christ, déjà, tout est accompli. Mais il n'est pas encore réalisé en nous. Il y en a même du monde qui ne sont même pas encore au monde actuellement. Alors, c'est évident. Alors, mais depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, tout le monde, en fait, est dans un processus de salut dû à Jésus-Christ et dont l'Ancien Testament était la figure, et dont l'Église est le dépositaire, et la dépositaire est chaque homme aussi dans sa prière et ses désirs. La cinquième vision, c'est la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la tzedaka, qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire la cohérence parfaite dans l'amour. Alors c'est évident qu'on voit que Dieu seul est saint, mais on voit bien que le monde n'est pas saint. Mais quand même, le monde est en travail de cohérence, de justice et d'amour.
Ce que vous dites, c'est que la sainteté de Dieu, excusez-moi, c'est que la sainteté de Dieu, qui est à sa cinquième qualité,
oui,
il la veut aussi pour le monde.
Voilà, et là, non seulement il la veut, il l'a donnée en son Fils Jésus, et l'Esprit-Saint, avec Jésus, qui est présent en nous, et surtout quand nous sommes deux ou trois réunis en son nom, ce qui est l'Église, est en train de vouloir l'accomplir en nous et de nous y faire et collaborer. Alors, en fait, à cause de tout ça, tout homme, en fait, jusqu'à un certain point selon sa vocation, est co-créateur, co-libérateur et rédempteur, et co-époux, si vous voulez, co-amoureux, co-cohérence, co-sainteté. Parce que la sainteté, c'est l'amour parfait en deux personnes. Évidemment, dans la Trinité, ils sont trois et cet amour-là est parfait. Voilà pour les cinq visions du monde, mais maintenant, ce qu'il faut ajouter, qui est très important, c'est qu'elles sont corrélatives et interrelationnelles. Autrement dit, plus on pratique la cinquième, plus on louange Dieu dans ses œuvres et dans son dessein, qui est la cinquième, la sainteté, plus nous permettons à l'Esprit-Saint, nous consentons à la sanctification que l'Esprit-Saint peut opérer en nous par les mystères du Christ que nous vivons, qui sont la cause de notre sanctification, à condition de croire à son amour tout le temps, plus la justification du Christ s'opère en nous, et plus le mal diminue en nous-mêmes, nous sommes rendus à deuxième vision, et plus nous aidons le monde aussi à faire diminuer le mal dans le monde, comme actuellement le mouvement féministe international, le mouvement des jeunes internationaux, l'ONU, aujourd'hui, par exemple au Canada, et même dans d'autres pays, l'armée est rendue pacifique, elle a des armes dissuasives.
Toutes les vocations à caractère humanitaire.
Absolument, sont toutes des travaux de l'Esprit-Saint et des travaux de sanctification qui opèrent la justification du Christ, qui permettent au mal quand même de reculer, mais en profondeur, même si nous ne le voyons pas toujours, et finalement d'admirer un Dieu tout-puissant, si créateur et si bénéfique dans toute son action.
D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur la définition des deux éléments de la béatitude. On a déjà parlé un petit peu des pauvres, mais j'aimerais parler du royaume des cieux.
Oui.
Pour commencer, le définir un petit peu.
Oui.
Et puis, j'aimerais que vous nous disiez si le royaume des cieux dont on parle, c'était dans le temps de Jésus, comme on l'a entendu, du moins dans mon enfance, que le ciel, c'était un petit peu par opposition à la terre, à la vie terrestre. Mmh. Mais d'où est-ce que ça vient, cette idée de ciel?
Oui. Ça serait toute une recherche exégétique. Alors, essayons encore là, de comprendre les mots.
L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le royaume des cieux.
Le royaume des cieux, si on étudie la Bible, on voit bien que ça fait référence au symbole qu'était le royaume de David, qui était une réussite extraordinaire du peuple de Dieu. Maintenant, dans chaque culture, il n'y a pas toujours cette expérience de royaume puis d'un roi.
Les gens du temps de Jésus étaient très familiers avec l'histoire de David.
Absolument, c'était leur expérience, c'était leur objet de méditation, c'était leurs aspirations, que finalement, le bonheur soit total pour tous les Juifs et tout le monde entier même, et que ce soit dans l'optique que David avait instaurée. Maintenant, nous autres, comment est-ce qu'on traduirait ça? Le royaume de Dieu, pour nous, c'est la plénitude de vie du dessein de Dieu sur chaque homme et sur chaque nation, d'une façon infinie, telle que l'amour de Dieu se vit en lui-même.
Mais quand on dit la plénitude de vie, est-ce qu'on parle de la plénitude de notre vie aujourd'hui, maintenant, ou bien celle qui nous attend après la mort?
La plénitude de notre vie aujourd'hui, on comprend que c'est des petites plénitudes, comme nous avons des petits bonheurs, mais elles contiennent ces plénitudes ou ces demi-plénitudes. Elles sont en devenir. C'est un processus. Alors, c'est évident qu'ici, on fait d'abord allusion à une plénitude eschatologique qu'on appelle, c'est-à-dire, à la fin dernière, quand tout le plan de Dieu sera réussi. Mais déjà, nous pouvons y communier par l'espérance et par la foi. Et dans l'Eucharistie, encore une fois, nous communions au monde déjà réussi dans le Christ et nous-mêmes déjà réussis en lui, parce que à cause de la justification. Mais nous sommes dans un processus de sanctification. Alors, ces plénitudes-là, nous autres, qu'est-ce qui arrive? C'est que surtout au début, on a un petit peu, puis on en perd. Et on est dans un processus plutôt de libération et d'attente messianique. Mais il reste que déjà, ce germe de vie éternelle et complet est en nous, est en croissance, est en train de grandir.
Alors, le royaume des cieux, il est déjà un petit peu avec nous. Et il est en processus de croissance.
Oui, par exemple, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu contient trois éléments.
Vous dites le royaume de Dieu.
Ou le royaume des dieux, parce que les cieux symbolisent Dieu. Autrement dit, quand on récite le Notre Père, on dit Notre Père qui es aux cieux. C'est normal, parce que les parties du haut sont plus nobles que celles du bas. Alors on met dans les astres la plénitude, la perfection, il arrive à l'heure, les astres, tout ça. Nos mondes sont rivés là-dessus. C'est sûr que les astres, c'est intéressant à étudier. Puis, il y en a même qui ont identifié ça dans le passé chez les païens, des dieux, les astres.
Au fond, c'est une image anthropomorphique.
Absolument. Hein? Aujourd'hui, qu'on a les avions, c'est très bien que Dieu n'est pas en haut. D'ailleurs, il est en bas pour les Chinois. Ça dépend, la Terre est ronde. Alors, c'est une image. Mais cette image-là a une grande valeur. Et au fond, ça voulait dire notre Père qui est Dieu. Donc, quand on dit dans notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire en nous comme en toi.
D'accord. Bon, ça, c'est pour le royaume des cieux.
Oui.
Avec le royaume, si c'est le moment, j'aimerais que vous me disiez s'il y a un rapport, une corrélation avec le salut. Est-ce qu'un suppose l'autre?
Oui, il y a une corrélation de termes. Le salut fait plutôt référence à l'Exode, c'est-à-dire au processus de libération qui se passe sur la terre dans le plan de Dieu. Mais le salut comprend deux éléments, c'est-à-dire l'enlèvement des obstacles à notre réussite et notre divinisation elle-même dans la vie divine. Le mot « royaume » comprend tout ça. Et quand on étudiera les paraboles, si jamais on le fait, le mot « royaume » veut dire le dessein de Dieu, puis le mot « règne » veut dire l'action de Dieu pour l'accomplir. Alors, le royaume de Dieu, c'est tout le plan, c'est tout le dessein de Dieu. Le salut, ça fait référence surtout à l'enlèvement des obstacles, la libération nécessaire pour que ce salut-là s'accomplisse.
Une espèce d'actualisation du plan de Dieu.
Une actualisation de la justification, c'est-à-dire de la mort et résurrection du Christ.
Thank you.
Monsieur Truchon, au sujet du salut, vous dites que c'est gratuit. Je pense que ma prochaine question, elle est pas mal importante. Pourquoi est-ce qu'on a longtemps cru qu'il fallait expier ses fautes, aller au purgatoire, que certains péchés risquent de n'être pas pardonnés, on va en enfer, et qu'en fin de compte, le salut, c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas tout à fait gratuit? Moi, ça me paraît pas clair, ça me paraît très clair que Dieu impose des conditions. Mais vous, vous dites, non, non, le salut, c'est gratuit, c'est automatique. Je vous cacherai pas que je trouve ça un petit peu embêtant.
Là, je découvre que quasiment 9 questions. Maintenant, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est que le salut soit automatique. Ça, je ne peux pas avoir dit ça.
J'ai pas dit que vous l'aviez dit, j'ai probablement tiré une mauvaise conclusion.
Merci beaucoup, je suis content de ça. Parce que là, j'aurais été obligé de me rétracter d'une façon très grave.
Alors, expliquez-nous quand même un petit peu la notion de situation.
Alors, c'est absolument pas automatique, parce qu'il n'y aurait plus de liberté, il n'y aurait plus d'amour. Et si j'obligeais ma fille à m'aimer, à chaque fois qu'elle m'aimerait, je me dirais, elle m'aime pas vraiment, c'est moi qui l'ai obligée. Alors, c'est tout le plan de Dieu qui est bâti sur une gratuité, c'est-à-dire un amour inconditionnel et total. Et c'est ça, peut-être, la grande caractéristique du christianisme au niveau de sa doctrine et au niveau de l'auteur de sa doctrine, qui est Jésus lui-même. Alors, c'est évidemment la gratuité, c'est-à-dire que, en venant au monde, là, en Jésus-Christ, chaque homme est sauvé. Oui, mais on dit qu'il faut le faire baptiser. C'est sûr que le baptême donne des puissances spéciales pour manifester ce salut qui est offert par Dieu en Jésus-Christ et qui est déjà accompli en Jésus-Christ. Alors, pourquoi agir d'abord si on est sauvé? Ben, justement, dans l'Église catholique, dans la doctrine chrétienne, on vient au monde avec le salut de Jésus-Christ offert. Et le salut ne sera pas le résultat de nos efforts, ça sera le résultat de notre foi en cette gratuité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de vivre en sauvé. Alors, apprenant qu'on est sauvé, apprenant que Dieu nous aime, on vit en sauvé. Et c'est ça l'Église, c'est d'apprendre à vivre en sauvé. Et là, à ce moment-là, on développe en nous les grâces de Dieu, des fois avec des efforts, je suis bien d'accord, mais en fait, c'est pas les efforts qui comptent, c'est nos consentements. Parce qu'au fond, c'est Dieu qui fait tout en nous, mais par nous. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est co-créateur, co-rédempteur, co-révélateur, c'est évident. Nous sommes les mains et les yeux de Dieu pour détruire le mal dans le monde et manifester surtout au monde que notre vie est réussie en Dieu et que nous n'avons qu'à nous tourner vers lui et qu'il va tout faire. Maintenant, donc, premièrement, 3 hérésies qui sont bien connues dans l'Église. Le ciel, le salut, n'est pas le résultat de nos efforts ni de nos sueurs. Ça donne à rien d'arriver au ciel avec des gros pots de sueur, pensant qu'on aura une plus belle place.
C'est pas parce qu'on a davantage souffert qu'on va davantage mériter
le ciel. Non, c'est parce qu'on aura davantage aimé, surtout si on a souffert, parce que ça va le démontrer encore plus.
Mais vous savez comme moi qu'on a bien appris, dans mon enfance en tout cas, que la souffrance, c'était un bon moyen d'acquérir un statut.
C'est-à-dire que la souffrance va être une école où l'amour peut se développer si la foi perdure. Alors ça, on reviendra là-dessus avec une béatitude spéciale et on aura bien de l'ouvrage là-dedans.
Oui, s'il vous plaît, je pense que c'est important.
Oui, mais tout de suite déjà, il faut voir que le salut, Dieu n'est pas le résultat de nos efforts, il se donne à nous. Le mot grâce, le mot eucharistie veut justement dire gratuit. Et le mot « toda » en hébreu qu'il symbolise veut dire « merci ». Alors, on dit « merci » parce que, justement, on n'a pas payé. Et la théologie des mérites demeure pareille, mais elle demeure à la périphérie. Le salut, lui, il est donné.
Ce que vous Alors, dites, c'est qu'il nous reste à l'accepter librement. C'est là que la volonté intervient.
Tout est là, dans notre consentement et dans la foi en cet amour de Dieu. Et nous reverrons, nous reviendrons là-dessus absolument, surtout avec la béatitude des cœurs purs. Là, nous y reviendrons face à face.
Dans votre livre, aujourd'hui, les Béatitudes, que plusieurs auront lu, je suis sûre, toujours au sujet de la première béatitude, vous parlez des différentes manières de prier, les fausses manières et les vraies manières. Et vous écrivez ceci, je cite, « Jeûne ou prie dans le secret du Père, cache tes mérites, montre aux hommes la joie. » Fin de la citation. Alors, vous semblez affirmer que c'est en cachant ses mérites qu'on peut démontrer sa joie. Mais de quelle joie est-ce qu'on parle ici?
Oui, puis là, je perfectionnerai ses dires ou ses écrits. Parce que les œuvres, là, dans le Nouveau Testament, servent non pas à nous sauver, elles servent à montrer la la vitalité de notre foi et de la puissance de Dieu dans son amour pour nous. Dans l'Ancien Testament, on pourrait penser que les œuvres permettaient d'acquérir le salut. Par exemple, dans Marc 10, le jeune homme riche, il dit que je voudrais avoir la vie éternelle. Bon, ben, le Christ dit qu'il observe la loi, mais il dit j'ai tout fait ça. Mais là, Jésus veut le faire passer dans le Nouveau Testament. Il dit vends tout ce que tu as et viens. Ça veut dire choisis toujours Dieu dans tout ce qui toi t'arrive et tombe en amour avec parce qu'il t'aime et tout ce que tu as, tu vas lui donner de toute façon. Autrement dit, le Nouveau Testament, c'est le Christ lui-même qui est le royaume. C'est le Christ lui-même qui est le bonheur. Et ce n'est pas tellement nos œuvres et surtout leurs manifestations pour des fois manifester notre orgueil ou nos réussites. Alors c'est tout, il y aura une parabole là-dessus, le pharisien et le publicain. Le pharisien, il aimait montrer tous ses diplômes devant Dieu, puis il était content de Dieu, puis il montrait tous ses diplômes. Jésus dit, il est ressorti comme avant, pas mieux qu'avant. Alors, au fond, dans l'Ancien Testament, nos œuvres étaient importantes. Dans le Nouveau, elles le sont encore. Elles sont encore plus, mais elles sont utilisées par Dieu pour manifester sa miséricorde. Alors, tout le jugement dernier sera basé là-dessus. Donc, dans le Nouveau Testament, le plus grand péché, c'est de manquer de la foi, de foi en Jésus, c'est-à-dire de pas croire en son amour. Et la plus grande œuvre, c'est d'agir en plénitude pour manifester cet amour. Et ça comprend, ça va amener toutes les vertus. Et si, je donne souvent deux textes de référence pour expliquer tout ça. Romains 1:3, dans la tome intégrale, Romains 1:3, note G, puis Romains 3:24, note W. C'est très bien tout expliqué là.
D'accord, merci beaucoup. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la première béatitude au sujet de laquelle vous dites qu'elle est le fondement de toutes les autres. Il m'est venu une image, puis j'aimerais que vous me disiez si elle est juste. Je vois un jeu de quilles sur lequel on lancerait une boule et qui, si le lancer est un petit peu près, à peu près centré, il aurait pour effet non seulement de faire tomber la quille principale, c'est-à-dire la première béatitude, mais ferait probablement tomber plusieurs autres, sinon toutes les autres. Je pense que ce que vous essayez de dire, c'est qu'une fois qu'on a réalisé la première béatitude, il y a une espèce d'effet d'entraînement sur les autres.
Oui. Les béatitudes sont interrelationnelles, comme les doigts de la main sont proportionnels. Si votre majeur grandit, c'est parce que les autres doigts vont être plus grands. Alors, de même, les vertus sont interrelationnelles. Plus tu en travailles une, plus tu fais grandir les autres. C'est pourquoi on est mieux de travailler celle qu'on a comme plus forte, c'est plus intéressant, puis ça fait grandir les autres. On n'a pas d'avoir peur qu'elle va devenir trop grande. Une vertu est jamais trop grande. Alors, ainsi, la première béatitude, qui est la béatitude des pauvres, c'est comme les lignes majeures. Ça comprend toutes les autres.
Ben, Monsieur Truchon, je vous remercie beaucoup. Puis là-dessus, on va devoir se quitter parce que c'est tout le temps qui nous reste. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci.